Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les journaux, Blaise Ndali Kamara.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le titre de ce journal, lutte contre le virus d'Ebola. Il y a 515 cas confirmés depuis le début de l'épidémie et 91 décès dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chiffre publié par l'Institut National de Santé Publique dans son tout dernier rapport. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema éjecté de son fauteuil. Le vote de sa déchéance a eu lieu hier lundi au cours d'une plénière organisée pour examiner les pétitions restantes à l'absence des concernés. Cette plénière était présidée par le vice-président de cet organe délibérant. Trois semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri et dans le Nord Kivu, la situation continue de rester mitigée. Il y a certes des révolutions, notamment la guérison de certains malades, mais beaucoup de défis restent encore à relever. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi sont revenus sur l'évolution de cette épidémie 25 jours après sa déclaration officielle. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'épidémie de la maladie à virus Ebola continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo. 515 cas confirmés depuis le début de l'épidémie et 91 décès dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Chiffre publié par l'Institut National de Santé Publique dans son tout dernier rapport. Ce n'est pas tout. Les autorités sanitaires ajoutent que 283 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 12 personnes ont été déclarées guéries depuis le début de l'épidémie. Benjamin Mudumbi nous fait le point.
Selon les données officielles, l'épidémie affecte désormais 25 zones de santé sur les 104 que compte le pays. L'Ituri reste la province la plus touchée, avec 17 zones de santé affectées sur 36, notamment Arou, Aungba, Bambou, Bounia, Damas, Geti, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mongwalu, Nizi, Nyakunde, Rimba et Rwampara. Dans les provinces voisines, le Nord et le Sud Kivu enregistrent aussi des décès. La zone de santé de Katwa demeure le principal foyer actif avec 11 cas confirmés, dont 8 décès, suivi de Beni avec 100 cas confirmés et 3 décès, Butembo avec 4 cas confirmés et 2 décès. À Mitimuresa, nous sommes au Sud Kivu, 3 cas confirmés et 1 décès. Oicha, 2 cas confirmés et 2 décès. Kalunguta, 1 cas confirmé et 1 décès. Kyondo, 1 cas confirmé et aucun décès. Goma, 1 cas confirmé et aucun décès, précise l'Institut National de Santé Publique. Ces chiffres interviennent dans un contexte marqué par de nombreux défis pour les équipes des ripostes, notamment l'insécurité persistante dans certaines zones de l'Ituri, les difficultés logistiques liées à l'accès aux communautés affectées, ainsi que la nécessité de renforcer la sensibilisation pour lutter contre les rumeurs et la désinformation.
Et puis toujours à l'Ituri, avec ce rebondissement, les vols commerciaux de nouveau suspendus à l'aéroport de Bounia. Une décision annoncée par le gouvernement pour évidemment lutter contre la maladie à virus Ebola. Mais cette mesure continue de susciter beaucoup d'incompréhension auprès de nombreux voyageurs. Certains passagers qui avaient déjà acheté leur billet ont vu leur vol annulé à la dernière minute alors que les mesures de prévention contre Ebola étaient appliquées à l'aéroport. Du coup, plusieurs habitants s'interrogent sur cette décision intervenue seulement quelques jours après la levée de la précédente suspension des vols. Reportage Isaac Remoyopi.
À l'aéroport de Bounia, plusieurs passagers ont été contraints de rebrousser chemin ce week-end à la suite de la suspension des vols commerciaux. C'est le cas d'une famille qui accompagnait sa mère à Beni pour des soins médicaux. Arrivée à l'aéroport dimanche matin, elle a appris que son vol avait été annulé à raison de la nouvelle décision gouvernementale. Faute d'alternative, la famille a dû se tourner vers les transports routiers malgré l'état de santé préoccupant de la patiente. Comme elle, de nombreux passagers se disent surpris par cette mesure annoncée seulement 5 jours après la reprise des vols commerciaux suspendus dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Plusieurs passagers qui s'interrogent sur les mobiles réels des autorités soulignent pourtant que les mesures sanitaires étaient respectées à l'aéroport, notamment les dépistages des voyageurs avant l'embarquement. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée concernant la levée de cette nouvelle suspension. Selon des sources aéroportières à Bounia, cette décision fait suite à des instructions de la hiérarchie en lien avec l'évolution de la situation sanitaire dans la province. À ces jours, seuls les vols humanitaires et ceux liés aux opérations de riposte contre Ebola restent autorisés à l'aéroport de Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Une question cette fois. Comment les habitants de Bounia vivent-ils au quotidien avec la menace d'Ebola? Réponse. Alors que les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention, les comportements restent contrastés. Entre contraintes du quotidien, mesures de précaution et besoins de sensibilisation, chacun tente de s'adapter à sa manière. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Au grand marché de Bounia, l'activité commerciale reste intense. Vendeurs, acheteurs et conducteurs de taxis moto se croisent dans des allées, souvent bondées. Dans ce contexte, respecter certaines mesures de prévention n'est pas toujours facile. Pour Patrick Ndamukulu, l'une des principales difficultés concerne les transports en commun où la promiscuité est presque inévitable.
La plus grande difficulté reste les transports en commun car nous n'avons pas d'autres moyens de déplacement. Nous ne savons pas comment nous protéger.
Dans plusieurs commerces, le lavage de mains est devenu systématique avant toute transaction. C'est le cas chez Kakule Remo.
Chaque boutiquier, il met un lavabo devant sa porte pour dire que quand le client il arrive, il doit se laver les mains. S'il arrive à acheter, il vous remet l'argent. Vous prenez votre gel alcoolique, vous désinfectez les mains.
À domicile également, certains habitants disent avoir changé leurs habitudes. Cécile Grégo est mère de famille.
Ce que j'ai fait, c'est seulement laver les mains.
Pour capter les machines.
Pour me protéger.
N'est-ce pas, qu'est-ce que tu fais de la vie?
Je le prends directement dans l'eau et je le lave.
Mais pour plusieurs observateurs, les efforts de sensibilisation doivent être encore renforcés afin que le désir de prévention soit mieux compris et appliquée par tous. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capitale.
Entre-temps, la sensibilisation contre Ebola, elle, ne faiblit pas, même ici à Kinshasa. La sénatrice Noëlla Bachebandei, élue de la province de l'Ituri, tire la sonnette d'alarme sur la désinformation et les violences visant le personnel de santé. Dans une communication rendue publique hier lundi à Kinshasa, elle appelle les autorités nationales et provinciales à agir en prenant des mesures urgentes, fortes et efficaces pour protéger la population et freiner la propagation du virus. Elle recommande également de renforcer les capacités de l'hôpital général de référence de Mongoualou, épicentre de l'épidémie. Reportage Grâce Hamzati.
Dans sa communication, la sénatrice Noëlla Bachebandei s'est dit préoccupée par les rumeurs, la désinformation et les actes de violence qui entravent les efforts des ripostes. L'élu de l'Ituri met l'accent sur la situation des personnels soignants exposés quotidiennement à de nombreux risques. Elle demande au gouvernement de garantir leur sécurité, leur prise en charge, leur motivation ainsi que leur dotation en équipement de protection et en moyens de travail suffisants. La sénatrice attire aussi l'attention sur la situation de l'hôpital général de référence de Mongoualou. Elle demande un appui urgent en équipements médicaux, médicaments, matériel de protection, capacité de laboratoire et ressources humaines qualifiées, estimant que le renforcement de cet établissement est indispensable pour contenir l'épidémie à sa source. Noëlla Bachebandei recommande par ailleurs de renforcer la communication avec les communautés en associant notamment les leaders locaux et les autorités coutumières afin de lutter contre les fausses informations, rappelant que la désinformation, la stigmatisation et les violences contre les équipes médicales aggravent la situation. Elle affirme que la lutte contre Ebola exige l'engagement et la responsabilité de tous.
Politique à présent, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema éjecté de son fauteuil. Le vote de la déchéance du docteur Kibungi Mutanga Junior a eu lieu hier lundi au cours d'une plénière organisée pour examiner les pétitions restantes à l'absence des concernés. Parmi les pétitions examinées de deux membres du bureau, celle du questeur a été sauvée de justesse par les députés présents à cette plénière présidée par le vice-président Théophile Bouléli Docta. Florence Kizalunga nous en dit plus dans ce reportage.
Après le vote secret, 13 députés sur les 14 présents à la plénière ont voté pour le départ de leur président, Kibungi Mutanga Junior. Il est reproché de ses collègues à part l'incompétence, la mauvaise gestion du débat lors des plénières. Pour ces députés, cette façon d'agir n'honore pas la première institution en province qui est du reste démocrate, comme le souligne le rapporteur Papi Omeonga Chopa.
Nous sommes respectueux des têtes. Nous avons trouvé que nous sommes des démocrates et que la démocratie doit conduire tout le monde. Nous avons trouvé dans les chefs de l'honorable président de l'Assemblée provinciale qu'il y a eu des problèmes de gestion des débats au niveau de l'Assemblée plénière. C'est ça l'organe suprême de prise de toutes les décisions, c'est à ce niveau-là, des grandes décisions de l'institution. Quand quelqu'un se permet de déclarer que 9 voix prime sur 13, mais si on ne sait pas sanctionner là-bas, on va le sanctionner quand? Ça, c'est déjà un problème. C'est pour cela qu'on l'a sanctionné. Mais s'il revenait, comme notre collègue le questeur, il est venu, il a demandé pardon. S'il demandait pardon publiquement là-bas, parce que nous avons fait un premier pas. Parce que nous l'avons invité pour la première fois, c'était le 16 mai. Il n'était pas venu. Nous l'avons encore invité pour aujourd'hui. Il n'est pas venu. Alors, on va attendre jusqu'à quand.
À la question de savoir la suite des événements, les rapporteurs font savoir qu'une plénière sera organisée dans les 48 heures qui suivent pour tout décider. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La population de Kisangani ne sait plus à quel saint se vouer. Le prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur sur le marché local. Le prix d'un gobelet de riz, par exemple, est passé du simple au double, c'est-à-dire de 1000 à 2500 francs congolais. Alors que le ministère provincial de l'économie refuse pour l'instant de se prononcer sur les causes de cette surchauffe, les vendeurs et vendeuses évoquent plusieurs facteurs, notamment l'impraticabilité des routes de dessertes agricoles. Reportage signé Jacques Moukonkolé.
Sur le marché local, le constat est alarmant. Le gobelet de riz qui s'achetait il y a encore peu de temps à 1300 francs congolais se négocie aujourd'hui à 2500 francs. Dans les allées du marché comme au sein des riseries, un constat revient sur toutes les lèvres. L'impraticabilité des routes de dessertes agricoles qui asphyxie l'approvisionnement de la ville.
On dit que la route est impraticable et difficile pour le moto et les fousseaux d'y accéder. C'est pourquoi les prix des riz ont augmenté. Il faut entretenir les routes.
Chez les grossistes, la carence de riz est liée à la rupture des stocks, comme l'explique Donna Eyanga, gérant d'une entreprise d'import et export.
Notre rupture des stocks est due au manque de bateaux. On connaît des pannes sans réparation. Alors maintenant, il faut chercher des bateaux d'occasion et pour trouver, et ça pose un petit problème.
Face à cette crise, le ministère provincial de l'économie choisit de garder le silence sur les responsabilités de ce dysfonctionnement. L'autorité sectorielle refuse de s'attarder sur les causes de la crise, préférant concentrer sa communication sur les pistes des solutions à envisager.
Les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est demander à ces sociétés-là de passer commande assez rapidement, de manière que leur dépôt soit ravitaillé.
Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Cap.
Et puis l'acheminement des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs agglomérations de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé, un casse-tête pour le moment. À la base, l'effondrement du pont Ituri 2, situé sur la route nationale numéro 44. Cet ouvrage reliant les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri s'est affaissé dimanche sous le poids d'un camion transportant des marchandises. Conséquence, cet incident affecte déjà les opérations militaires contre les rebelles des ADF très actifs dans cette partie de la province, alerte la société civile de Mambasa. Il perturbe également l'acheminement des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs agglomérations de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé. Détail avec Isaac Remoyopé.
10 ans après sa réhabilitation par l'Office des routes, grâce au financement du gouvernement congolais, le pont Ituri s'est effondré dimanche, interrompant totalement la circulation sur cet axe stratégique. Selon la société civile du Congo, plusieurs alertes avaient été adressées aux autorités concernant les non-respects du tonnage autorisé sur cet ouvrage, mais sans succès. Pour cette structure citoyenne, la léthargie des services compétents qui a conduit à l'effondrement du pont dont les conséquences sont déjà perceptibles. La difficulté pour les FARDC d'atteindre certaines zones vers Biakato où les rebelles des ADF sont très actifs ces dernières semaines. L'effondrement du pont perturbe également les transports des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs centres commerciaux de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé qui dépendent de cet accès routier. Face à l'importance économique et sécuritaire de cette infrastructure, la société civile appelle les autorités à intervenir rapidement pour rétablir la circulation. Marie-Noël a noté
vraiment, nous regrettons que ce pont soit encore effondré dans moins de 2 ans. Tout ça faisait encore basculer sur l'économie de la population. Les autorités militaires auront des peines pour faire des interventions rapides dans cette zone qui est aussi à la proie des ADF. Nous interpellons les autorités qu'ils puissent prendre en sérieux cette situation.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, le Caire accueille deux nouvelles discussions sur la mise en œuvre de l'accord de cesser le feu à Gaza. En dépit de la trêve conclue en octobre 2025 sur le terrain, l'armée israélienne avance et occupe désormais 60% du territoire et le Premier ministre dit publiquement qu'il vise 70%. Il y a toujours des ordres d'évacuation qui, évidemment, créent la panique chez les Gazaouis.
L'invité.
Trois semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri et dans le Nord Kivu, la situation continue de rester mitigée. D'un côté, des évolutions positives comme la guérison de certains malades et la mobilisation par le gouvernement de la RDC et ses partenaires d'importants moyens financiers, logistiques et matériels pour renforcer la riposte. De l'autre côté, certains défis demeurent, notamment la désinformation et la résistance de certains habitants aux interventions des équipes de riposte. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi sont revenus sur l'évolution de cette épidémie 25 jours après sa déclaration officielle. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Docteur Richard Kitenge, vous êtes incident manager adjoint du niveau national de la réponse à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. Au vu de ce qui se passe sur le terrain, peut-on parler d'une évolution mitigée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC 24 jours après sa déclaration officielle?
Je ne pense pas que ça soit une évolution mitigée, d'autant plus que nous qui sommes sur terrain, nous sommes des experts et donc nous avons la matière entre nos mains, nous avons les stratégies et nous avons l'accompagnement et du gouvernement et des partenaires. Donc nous ne pouvons pas dire une évolution mitigée, mais la mise en œuvre de la réponse, et surtout une réponse de cette ampleur, prend quelques temps pour s'installer. Donc à ce niveau ici, c'est une mise en œuvre. Nous sommes en train de nous installer, de déployer les nécessaires, et nous déployons les nécessaires en même temps nous ripostons. Et donc ce n'est pas une évolution mitigée, mais c'est juste une mise en œuvre que nous sommes en train de faire. Et dans très peu de temps, ça sera de l'envol.
Voilà, docteur Richard Kitenge, comment vous expliquez cette décision portant suspension des vols commerciaux à destination et en provenance des Bounia? C'est une décision qui vient d'être prise. Et tout de suite, ça semble, n'est-ce pas, confirmer les allégations selon lesquelles la maladie ne fait que prendre de l'ampleur.
Une décision politique ne peut pas être contredite par les techniciens. Moi, je suis technicien. Je ne peux pas me permettre à interpréter une décision au niveau politique.
Mais est-ce que vous pensez que c'était opportun de prendre une telle décision aujourd'hui avec la manière dont les choses évoluent?
Ma réponse à l'heure actuelle ne va rien modifier parce que la décision est déjà prise et nous ne pouvons que faire avec.
Merci, Pele Kaswara Taïgomo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne l'évolution de cette épidémie 24 jours après sa déclaration officielle en termes notamment de la prise en charge des malades?
Rappelons qu'aujourd'hui, la zone de santé de Rwampara enregistre 147 cas confirmés, dont 14 personnels soignants. Parmi les 14 personnels soignants, il y a 4 médecins et 10 infirmiers, avec plus de 1383 cas contacts. Lorsqu'on voit les centres de transit de l'hôpital général de Bounia, il y a au moins 16 lits pour les cas confirmés, et ces 16 lits sont occupés au moins à plus de 70%, donc on a 11 malades qui sont suivis à l'hôpital général de Bounia. Il y a plus de 21 lits pour les cas suspects qu'on a arrangés à l'hôpital général de Bounia. Au moins 15 lits sont occupés. Vous comprendrez que les taux de participation à la maladie continuent toujours. Il est vrai qu'il y a la forte mobilisation. La prise en charge continue à poser des petits problèmes.
Merci, docteur Anissé Kipassa. Vous êtes expert en santé publique et ancien vice-président du comité scientifique des luttes contre Ebola à Kikwit en 1996. Vous avez évoqué l'infodémie, cette rumeur qui fait que beaucoup de gens continuent à penser que la maladie, c'est une maladie imaginaire. On rappelle que vous avez été impliqué dans la riposte de l'épidémie à virus Ebola à Kikwit en 1996. Vous avez fait certainement face à ces mêmes problèmes, l'infodémie. Comment vous avez pu relever ces défis à Kikwit?
Déjà, en 1995, quand nous nous sommes retrouvés devant ces problèmes-là, je voudrais vous rappeler, n'oubliez jamais, que ce soit COVID, monkeypox, que ce soit Ebola, retenez la grande caractéristique, ce sont des maladies avec un effet ou avec un impact socio-culturel, social très important. Alors, pour contrôler la rumeur, nous avions, aujourd'hui, nous on parle de l'infodémie, à cette époque-là déjà, avec le professeur Mouyembe, nous avons pensé au bureau des rumeurs. Dans le cadre, je crois, le docteur Mouvoudi l'a dit aussi la semaine passée, le docteur Mouamba l'a dit aussi la semaine passée, c'est la surveillance épidémiologique à base communautaire. Nous faisons la riposte actuellement en Ituri, nous devons la faire avec la population. C'est-à-dire nous devons intégrer la population dans ce que nous appelons la surveillance épidémiologique à base communautaire. Ça nous a aidé à contrôler la rumeur.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal préparé pour vous par Lievin Bouingavoubou et mis en onde par André Mongou.